Ah non, mais je me suis chié dessus, je ne l'avais pas mis.
Mais encore. Mais c'est pas possible.
C'est un vrai dojo bar.
C'est un vrai dojo bar parce que la technique est à la rue et que l'émission est extrêmement bien préparée.
Non, mais du coup, on est en ligne ou pas là?
Là, je pense qu'on est en ligne et qu'on nous.
Non, c'est un matin, il faut le dire.
Donc, mercredi 26 avril 2017, bar, tout ça.
En retard.
Bonsoir à tous, bonsoir Drosgar.
Bonsoir.
Bonsoir Antix.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Ce soir dans le dojo bar, tout va très bien. Notre émission était extrêmement bien préparée.
Je crois qu'on s'est pris une carapace bleue juste avant le début. Hein.
En fait, c'est ça, on a pris une. Ou alors mon combo préféré, banane, bombe, carapace rouge, hein, qui est quand même le petit combo sympa.
Ah, forcément, une banane.
Ah, forcément, une banane et une carapace rouge.
Ah, tu commences par une banane et une carapace. Tu commences par une banane, tu finis par une carapace rouge.
Ceci dit, vu le début calamiteux qu'on a eu, ça ressemble beaucoup à un départ turbo raté. Hein.
Départ turbo raté, Bowser te pousse, tu te casses la gueule.
Tout le monde te bolosse et tu finis dernier dans le trou. Et là, voilà. Tu te prends toutes tes pièces.
Voilà, là, je pense qu'on est bien. Donc, vous l'avez deviné, c'est une spéciale Mario Kart. On va faire une rétrospective Mario Kart parce que nous ne sommes pas des c'était quoi le terme officiel du siège
des
journalopes.
Ne faisons pas partie des merdias.
Ne faisons pas partie des merdias. Et donc nous n'avons pas reçu en avance un Mario Kart 8 Deluxe. On va l'acheter avec nos petits sous.
Alors moi, c'est un mensonge. Moi Mario Kart 8, je l'ai depuis des années sur Wii U.
Sale journalope.
On parle du remaster qui est tout pareil.
Non, c'est pas vrai, il y a un mode battle et les personnages de Splatoon, c'est pas la même chose, c'est tout nouveau.
Attends, c'est... Non mais en même temps, je comprends la décision de Nintendo, je veux dire, 13 millions de Wii U, c'est le jeu le plus populaire, tu le mets sur Switch, t'es garanti d'en vendre 3 millions rien que la première semaine, surtout que tu le fais payer plein pot.
Sans compter tous ces pigeons qui vont sûrement le racheter, n'est-ce pas?
Je sais pas de quoi tu parles.
Moi non plus.
Bref. On va commencer ce petit tour de table de l'actualité. Alors, Antix n'a pas d'actualité à proprement parler, mais il voudrait nous parler d'un petit jeu, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Shovel Knight, le chevalier à la pelle, c'est un peu bizarre. Mais voilà, pas mal joué en ce moment, donc il avait envie d'en parler, donc on va le laisser en parler.
Alors, est-ce que vous avez déjà joué à Shovel Knight?
Oui.
Oui.
Et je copie pas du tout Drosgar en faisant ça.
Et donc toujours mon intro, ça.
Oui, c'est du vol et du plagiat.
Journalope,
exactement. Et donc, du coup, comme chaque extension de Shovel Knight, au lieu de faire une partie dédiée dans l'émission, je vais en parler dans l'actualité. Donc, j'avais déjà parlé de Plague of Torment, extension consacrée à Plague Knight, qui était bien mais pas top. Surtout, mon plus gros défaut était de reprendre à peu près tous les niveaux quasi tels quels du premier Shovel Knight. Et donc, est sorti avec la Switch Spectre of Torment. Va sortir normalement très rapidement sur les autres supports et qui en fait ça, cette fois nous permet de jouer avec Spectre Knight. Donc j'avais un petit peu peur qu'ils reprennent juste à peu près les mêmes niveaux et non, en fait tout a été retravaillé, tout le level design a été revu pour la simple et bonne raison que Spectre Knight, contrairement à Shovel Knight, ne peut pas rebondir sur ses ennemis, mais il a la possibilité de les trancher quand ils sont dans les airs ainsi que de grimper sur les murs, ce qui fait qu'en fait on a des toutes nouvelles façons d'aborder le design. Et notamment beaucoup de passages au-dessus du vide où faut enchaîner les attaques aériennes sur les ennemis pour monter en diagonale et réussir à atteindre les échelles ou les plateformes à l'autre côté.
D'accord, donc ça reprend le même design de base des niveaux, mais le level design en lui-même a été légèrement tweaké.
Ah, il était complètement revu, c'est pas du tout la même chose.
Ah d'accord, donc c'est des niveaux totalement inédits.
Le design et une partie des obstacles sont déjà connus, mais à peu près tout est fait selon un twist, puisque Spectre Knight ne se comporte pas de la même façon que Shovel Knight. Il a des capacités que le héros à l'appel n'a pas. Et du coup, t'as une façon d'apprendre des niveaux qui est différente. Et donc, le layout est différent lui aussi, en conséquence.
D'accord.
Mais t'as des obstacles que tu connais. On retrouve par exemple le passage dans le Jardin des Liches où ça devient sombre, le scarabée qui avance dans le niveau de Mole Knight, qui avance sur le bassin de lave et faut rebondir. Mais sauf que du fait que Spectre Knight ne se comporte pas de la même façon, tu apprends cet obstacle différemment, alors que tu le connais déjà. Et c'est une extension qui est vraiment très très chouette, que je conseille fortement si vous avez aimé le premier Shovel Knight, et qui pour le coup apporte beaucoup plus que Plague of Torment.
Plague of Shadow.
Non, c'est Spectre of Torment.
C'est Spectre of Torment, c'est Plague of Shadow. Est-ce que tu penses qu'ils vont nous faire Maul Knight juste après ?
Normalement, le suivant, c'est King Knight.
Mais ils vont faire tous les chevaliers, alors ?
Non, ils vont s'arrêter avec King Knight. C'était les trois extensions qui ont été financées par le Kickstarter. Je sais plus s'il y avait Shield Knight aussi.
Je crois pas.
Il me semble pas. Enfin, en tout cas, ça va au moins sûr jusqu'à le suivant sera King Knight. Et après, peut-être qu'il y aura autre chose, ou ils passeront autre chose qui serait peut-être pas plus mal, parce que ça fait quand même... S'ils font encore une extension sur l'année prochaine, ils ont fait 4 ans de Shovel Knight.
Ça commence un peu à faire recyclage quand même.
Bah oui, et puis je pense qu'ils ont envie de passer à autre chose aussi. Hein.
Bah ça serait peut-être bien de faire un Shovel Knight 2 tout bêtement.
Ou
un autre jeu totalement, on est d'accord, mais c'est vrai que. Enfin, je peux comprendre que les mecs aient besoin de gameller. À un moment, il faut.
Bah, ça a été promis. Enfin, c'est des choses qui ont été promis dans le Kickstarter, ils tiennent leurs promesses. Voilà, ça se tient ici. À voir ce qu'ils feront après. J'espère qu'ils nous proposeront des belles choses, parce qu'ils ont fait un très bon jeu de plateforme, mine de rien.
Alors, par contre, vu qu'apparemment tu joues à toutes les extensions, est-ce que, Antix, tu pourrais m'expliquer, parce que j'ai rien compris, il faut que j'achète quelle version du jeu ?
Alors, mon cher Drosia...
Voilà une excellente question, Oscar, merci de l'avoir posée.
Eh bien, pour la modique somme de 25€, vous pouvez acheter sur l'eShop de Nintendo Shovel Knight Treasure Trove, qui comporte l'intégrale de Shovel Knight, à savoir... Shovel Knight.
Merci.
Plague of Shadow.
Première extension.
Première extension avec Plague Knight, qui se passe en parallèle de Shovel Knight, et Spectre of Torment, extension avec Spectre Knight, qui se passe avant Shovel Knight, et qui vous permettra de découvrir la trame à la fois profonde et mystérieuse de Shovel Knight.
On s'en bat la race.
En vrai, les flashbacks sont assez chouettes, mais on s'en va la race avant. Et pour ce prix-là, tu auras le droit à la quatrième extension gratuitement de King Knight. Sache que toutefois, ces extensions sont toutes gratuites si tu as pris le jeu de base sur une autre console.
3DS. Ah oui, en fait, j'aurais dû l'acheter avant,
avec ta voix de Belmar.
De quoi ?
Il a dit la voix de Pierre Belmar, je crois.
Ouais.
Mais trop jeune pour connaître.
Mais 490€ seulement.
Je ne sais pas très bien l'affaire, mais par contre, si tu as été un pigeon et que tu as déjà acheté le jeu au prix fort sur une autre console, mais que tu souhaites découvrir cette extension sur Switch, eh bien tu pourras prendre Shovel Knight Spectre of Torment pour seulement 10€. Par contre, tu n'auras pas le reste.
Donc en fait, si tu as déjà la version Wii U, tu as déjà Spectre of Torment que tu peux télécharger gratuitement ?
Exactement, mon cher mortal ! Mais il faut pour cela rebrancher cette console à la manette à la fois grosse et difforme !
Moi,
elle est toujours branchée. C'est pas des extensions, c'est des stand-alone.
C'est vendu comme des stand-alone, ou alors c'est les extensions si t'as déjà le jeu de base, en fait.
Alors, à la base, Plague of Shadow était une extension, et Spectre of Torment est vendu comme un stand-alone du fait qu'il y a eu une grosse refonte des niveaux, en fait. Je pense que c'est pour ça.
D'accord. Bon, maintenant que c'est un petit peu plus clair, Zergy, un sujet d'actualité très 8 bits, un peu comme d'habitude.
Grosse et difforme.
Oui, comme toujours. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler d'un petit jeu qui est sorti début mars, qui s'appelle The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Aucune idée, moi.
Voilà.
Mais les gens de Zelda de Souffle de... Sauvage me dit quelque chose.
Sur PS Vita.
Je pensais qu'on allait parler de Vroom in the Sky, moi.
Vos merdes.
SDM a fait un dossier spécial.
Oui.
Enfin bref. Donc il y a, enfin j'ai vu ça aujourd'hui, mais ça a dû sortir il y a. Quelques jours déjà, il y a des gens qui se sont amusés à refaire le Breath of the Wild 8 bits que Nintendo a utilisé comme espèce de...
Un prototype.
Ouais, de prototype à Breath of the Wild. Et si vous êtes intéressé, vous cherchez juste Breath of the Nest et dépêchez-vous de télécharger avant que Nintendo le shoot.
C'est le message important, c'est qu'effectivement, il y a quand même de bonnes chances que le truc se fasse shooter à un moment.
Je vais le tweeter quand même au cas où avec le compte du dojo.
Oui,
mais pas de mettre Nintendo FR aussi dans le lot pour qu'ils puissent regarder. Je pense qu'ils apprécieront le travail.
Alors, pour ceux qui sont intéressés, la seule version disponible est pour Windows, mais il marche très bien sous Linux. Au cas où. Voilà.
Mais personne n'est sous Linux.
D'accord, moi j'y suis.
Ouais, c'est ce que je dis.
Oui, moi aussi.
Bon bah voilà, on est deux. Dans ton cul. Nous sommes donc 50%. J'exige que cette élection soit refaite. Pardon. effectivement, moi j'ai pas eu la chance de l'essayer. Je sais pas si Zergit a pu éventuellement l'essayer avant qu'il se fasse shooter.
Non, il est toujours dispo. Je l'ai téléchargé tout à l'heure et j'ai testé rapidement.
D'accord. T'as vu pour l'instant des différences ou t'as fait juste le plateau du prélude?
Non, mais j'ai joué même pas 5 minutes, quoi, juste pour voir.
D'accord. Ok, donc bon, il tourne. C'est vrai que ce serait intéressant mais de le récupérer.
Effectivement, c'est très différent au niveau de la topographie des lieux, c'est très différent de Breath of the Wild, ça n'a rien à voir.
Bah déjà, t'as pas de grimpette, donc...
T'as pas de 3-2, surtout.
Merci, Captain Obvious.
Ouais, non, mais je sais, mais...
T'as des pixels à la place.
Je tenais à rappeler aux plus jeunes que la NES ne faisait pas la 3D.
Hein. Oui, les plus jeunes qui nous écoutent, hein, les post-90. Hein. c'est vraiment lamentable. Je vais finir le tour de table de l'actu par une petite news hardware de derrière les fagots comme je les aime. Un modeur qui s'appelle Benven, enfin dont le pseudonyme est Benven. A priori c'est Benjamin Vénitio.
Vénard.
Comme ça. Peut-être Benjamin Vénal. Parce que aussi, c'est une petite journalope lui aussi. Qui a créé un adaptateur VGA pour GBA. Alors essayez de le dire trois fois très vite, vous allez voir cette...
VGA pour GBA.
C'était il a réussi, presque. Là,
j'ai loupé le début. Hein.
Et donc, vous pourriez vous demander, mais pourquoi faire un adaptateur VGA pour Game Boy Advance? Ça n'a aucun sens. Excellente question, jeune Edonis nu.
On l'a pas posé.
Pourquoi
hein.
faire ça
mais pourquoi faire ça?
Mais pourquoi pas?
Jeune crétin. Et alors, la réponse de Benven, c'était « Et pourquoi pas ?» La première, c'était ça.
Et c'est la meilleure réponse.
En fait, pour jouer sur Game Boy Advance sur une télé, t'as plusieurs solutions. T'as un adaptateur qui existe pour Super NES.
Pour la Game Boy Advance?
Oui, qui est pas officiel de Nintendo, hein, c'est un aftermarket.
Oui, je me doute.
Mais il y a un truc qui existe, qui marche à peu près. Il y a le Game Boy Player. Le problème du Game Boy Player, c'est qu'en fait, le logiciel officiel fourni par Nintendo fait une image qui est pas forcément top et qui a des petits problèmes de synchro et de vitesse d'exécution du jeu. Ça provoque quelques bugs de temps en temps, alors c'est pas grand chose, en général le néophyte ne verra pas la différence, mais quand même, il y a des gens qui ont créé des logiciels spécialisés justement pour jouer sur Game Boy Advance et sur Game Boy Color et sur un Game Boy Player dans de meilleures conditions, donc c'est une solution 100% logicielle. Il faut juste hacker sa GameCube et on peut faire tourner ce genre de choses là, ce qui est intéressant, mais ça ne permet pas par exemple d'aller brancher sa Game Boy Advance sur un écran VGA un petit peu plus grand pour faire une Game Boy Advance portable, mais avec un écran de 7 pouces par exemple, donc typiquement un écran de tablette.
Et en fait, une Game Boy Advance portable, jusque là je pense que ça existe déjà.
Ouais, mais ça fait un écran très petit en réalité.
Non mais chut, faut pas lui dire. Il est trop vieux pour comprendre ce genre de concept.
La Game Boy Advance, c'était pas une console fixe.
Je crois qu'il a une époque où la Switch. Les consoles portables n'existaient pas à son époque.
Oui, écoute, moi quand je suis né, les consoles portables n'existaient pas.
Connard de près 90.
Petite merde. Bref. Donc l'idée du mec à la base, c'était pas forcément de créer cet adaptateur-là, c'était surtout de pouvoir arriver à rentrer une Game Boy Advance dans un petit appareil qui s'appelle un HDMI Pi, qui est un écran portable, qui est Full HD, qui prend du VGA en entrée, et son idée à lui, c'était de dire, je veux pouvoir jouer à la Game Boy Advance, mais sur un écran plus grand. Que ce soit plus confortable, typiquement sur un écran qui ressemble vaguement à un écran de Switch en fait, ce qui est quand même assez marrant dans le principe. Et au final, le gars a sorti le mode en disant s'il y a d'autres gens que ça intéresse, vous pouvez reprendre les schémas de base, les puces qu'il y a dedans, et vous pouvez aller faire un adaptateur pour brancher votre Game Boy Advance directement sur un écran de télé, et ça fonctionnera. Et l'avantage étant que comme c'est du VGA, il n'y a pas d'upscale de fait, donc c'est vraiment le signal brut de la Game Boy Advance qui, au lieu d'être envoyé sur le petit écran, qui n'est pas forcément top, est envoyé directement sur la télé. Vous n'avez plus de problème de synchro, il n'y a pas de problème de vitesse d'exécution, il n'y a pas de problème avec le CPU, il n'y a pas de... Voilà, ça juste marche. Et le truc fonctionne juste de manière native, comme ça. Donc c'est une bonne idée, finalement, il a rajouté une sortie vidéo sur une Game Boy Advance. C'est à peu près comme ça qu'on peut le résumer. Et je trouve que l'idée était bonne, en tout cas le truc est assez rigolo. Et si vous allez regarder un petit peu, si vous avez la curiosité d'aller chercher, vous cherchez Benven, B-E-2-N, V-E-2-N, vous allez voir son mode. Il a publié quelques schémas et quelques bouts de code qu'il utilise, le truc est quand même assez poilu, et c'est relativement marrant à étudier, je pense qu'il a quand même dû bien s'amuser. Bref, sur ces fortes paroles.
Of the Wild.
Bref, Of the
Wild. Il a osé.
Je. Alors, ce qu'on va faire. Antix, tu vas aller lui mettre une tarte.
Attends.
Ça fait un quart d'heure que ça a commencé, c'est déjà n'importe quoi.
C'est n'importe quoi au démarrage.
Est-ce que ça se sent qu'on est un peu fatigué?
Non, je sais pas. Moi je suis en pleine forme.
Tu es mort, mais tu ne le sais pas encore.
Les temps sont durs comme les œufs.
Et qui a-t-il sous le voile de la mariée? Je suis vraiment désolé auprès de ceux qui nous écoutent, si vous nous écoutez encore.
Ah, il n'y a plus que moins 2 auditeurs, c'est pas ça.
Je pense que c'est les tapants qui ont explosé lorsque j'ai crié.
On arrive à faire des auditeurs négatifs, c'est quand même fort. Bientôt, nous pourrons faire les statistiques des merdias. Bref.
Exactement.
Nous allons vous écouter un petit morceau qui va durer un petit peu moins de 4 minutes 30, qui est en fait un Rainbow Road mashup, parce qu'en réalité, quand j'ai cherché des morceaux pour diffuser pour une spéciale Mario Kart, je me suis rendu compte qu'on avait diffusé à peu près toutes les versions existantes de la Rainbow Road.
Autant toutes les mettre à nouveau.
C'est un peu l'idée.
À la suite.
Mais au moins, voilà, vous avez c'est un medley en fait qui va mélanger différentes sonorités et qui en fait le mec a ajusté le BPM de chaque Rainbow Road pour qu'elle corresponde à peu près. Et il a réussi à faire un mashup qui est vraiment pas dégueulasse. Voilà, ça dure un petit peu plus de 4 minutes. Et nous voilà de retour.
Tour.
Et justement, à propos de tour, on va pas...
Du circuit.
Chut, voilà. Antix, est-ce que tu peux remettre une tarte à Droskar?
Attends. J'ai moins la forme que
t'as. C'est déjà la deuxième aujourd'hui.
Oh, mais il est déjà mort, écoute... j'ai un peu pitié de lui.
Non, parce qu'il faut qu'il bouge maintenant.
Ah.
Oui, il va faire 7 pas et après il va mourir. C'est 7 pas ou c'est 7 secondes, je sais plus
comment c'est. 7 secondes, moi je dirais.
Non, c'est 7 pas dans Kill Bill.
Moi je me suis toujours dit, si le mec il faisait que 6 pas et qu'après il s'arrêtait, il se passe quoi?
Bah il s'assoit, il meurt pas tout de suite.
Bah ouais, mais du coup, est-ce qu'il peut pas baiser le game en mettant juste une chaise, en s'asseyant, en faisant voilà, genre.
En attendant sa muse.
Après il se prend une chaise roulante, c'est bon, hein, il a gagné.
Ouais, mais bah voilà. Franchement, alors là.
Non, je pas fait de pied intérêt. Par terre, d'Atanner.
C'est la partie géante de The Floor is Lava. Bref. Donc Mario Kart, parce que là je sens que sinon on va pas y arriver. Je sens déjà que cette émission est très mal partie.
Mario Kart est un jeu de course créé par Nintendo dans les années 90. Il met en scène
Mario.
Il met en scène non pas Mario avec Mario et ses amis, non pas à jouer avec des cartes, mais à conduire avec des cartes.
C'est un jeu très amusant.
C'est un jeu multijoueur qu'on suit pour créer et détruire des amitiés.
Putain, ça y est, il nous est...
Rendez-vous demain à l'ORTF.
Ah, à l'époque où le journalisme, c'était quelque chose pas comme aujourd'hui, bref.
Ah, c'est l'époque chaise. Où le gouvernement avait tous les... Non, pardon.
Chut. Maintenant, c'est bien, c'est pas le gouvernement, comment c'est Serge Dassault. Tout va bien, bref.
Alors, c'est Bolloré, d'abord.
C'est pareil. Ils sont cousins.
C'est probablement la même personne.
Bref, nous allons les mettre dans l'ordre chronologique. Pas Bolloré et Serge Dassault. On pourrait mettre dans l'ordre chronologique, mais c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons. On commence notre petite rétrospective Mario Kart en 1992, année de naissance de Drosgar. Non,
les deux non même pas, plus. 3 ans avant.
Oh putain, il est jeune.
Putain, ah,
ça chaud. Fait mal. Hein.
Il était même pas dans les couilles de son père.
Même pas. Moi, j'étais dans vos gueules, les vieux cons.
J'étais sûrement en train de chier dans un verso.
T'étais sûrement déjeuné. Moi, j'étais déjà suffisamment grand pour y jouer. Voilà. Ça vous fout pas la haine, ça?
Et ouais, non, non, pas de souci.
À l'époque, la Super NES, ça ressemblait à quelque chose, tu vois. C'était pas comme vos merdes d'aujourd'hui, la Switch, la PS4, toutes ces saloperies, là. Non, non, nous, on avait des vraies consoles avec des vraies manettes.
Des consoles françaises.
Des consoles françaises, monsieur, puisque oui, je rappelle qu'il y avait la... Comment, merde, l'Amstrad GX4000, hein.
Non, c'est anglais.
Et que la Super Nintendo était exclusive à la France. D'ailleurs, elle s'appelait la Super NES ou la Super Famicom. C'est pas Super NES console.
Il m'énerve.
Bref.
C'est même Zergy, ça le gonfle, vous voyez. Vous avez réussi. Bon alors, Super Mario Kart, pour les gens qui sont trop jeunes pour avoir connu, c'est donc le premier jeu de la série Mario Kart. Et en fait, c'est un jeu qui utilisait, un peu comme F-Zero. Alors F-Zero était un jeu de lancement de la Super NES, qui utilisait le mode 7, ou pour les plus jeunes d'entre vous, simulateur de tapis 3D.
Oh, c'est beau.
Il faut expliquer comment ça marche, mais c'est à peu près ça. Et F-Zero avait une particularité, c'est que c'était un jeu qui était seulement un jeu solo, et Nintendo voulait arriver à faire un jeu multi en mode 7. Et ce jeu-là, en fait, c'est Mario Kart. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté de l'intelligence dans la cartouche de Mario Kart. Il y a quelques puces de calcul supplémentaires qui déchargent un petit peu la Super NES qui, malgré tout, sur Mario Kart, elle crache un peu ses poumons, en réalité, pour faire tourner le jeu de manière fluide, et surtout pour pouvoir arriver à avoir deux joueurs qui joue à un jeu de course en même temps. Et il faut savoir, c'est un petit truc intéressant, c'est qu'à l'origine, Super Mario Kart, le prototype, en fait, qui a jamais été retrouvé, il y a 2-3 images qui ont été retrouvées par Unseen64, qui sont des grands spécialistes pour retrouver ça, ils ont trouvé quelques images de prototypes dans lesquelles c'était un jeu de voiture tout à fait standard, ça ressemble un peu à des micro-machines, en fait, qui couraient dans des circuits tout à fait génériques, et qui, pour se balancer des items, c'était genre des boules d'épines, des haches, des trucs comme ça, c'était vraiment un jeu, mais qui avait zéro chara-design, et qui avait l'air un chiant comme la pluie. Mais vraiment, enfin, le truc était juste horrible, et les mecs sont arrivés avec le proto vers Miyamoto, qui leur a dit, mais attendez, votre jeu, il a zéro personnalité, mettez-moi Mario là-dedans, parce que sinon, on va jamais arriver à le vendre.
Et ça a marché.
Et ça a marché, et ce que je trouve extraordinaire, c'est surtout le côté, le jeu va jamais marcher, mettez Mario dedans.
Aujourd'hui, hein.
Il est malin Miyamoto. Hein.
En même temps, il a donné de la personnalité au jeu parce qu'il n'y a pas seulement mettez Mario dedans, il y avait aussi on va mettre Yoshi, on va mettre Bowser, on va les faire courir dans des cartes un peu originaux, sur des circuits un peu rigolos.
Qui ressemblent à du Mario surtout.
Hein. Voilà, qui ressemblent à du Mario, qui reprennent beaucoup en réalité d'items et d'assets de Super Mario World. Il y a Donut Plain, Choco Island, des choses comme ça. C'est-à-dire, on va aller reprendre un peu cet univers de Mario. Et on va aller construire la personnalité du jeu quand même, parce qu'il y a les plumes qui permettent de voler, donc c'est, effectivement on emprunte des trucs à Mario, mais on les tourne un peu à la sauce Mario Kart. Et au final c'est un énorme succès Super Mario Kart, parce que je pense qu'à l'époque c'était quand même quelque chose d'assez sidérant, un jeu de course à deux, en presque 3D.
Mais d'ailleurs, toute l'idée de partir d'un prototype un peu sans personnalité et de mettre des personnages Nintendo, c'est ce qu'a fait Sakurai avec Mario. Enfin, avec Smash Bros, pardon.
Exactement. Oula.
Bon, lui, il l'a fait un petit peu en douce, mais...
Mais c'était le principe, les bonhommes étaient que des bonhommes fil de fer, et au final, c'est après qu'il a dit...
Il a fait un truc avec de la personnalité, il a fait des terrains avec plein de références, et depuis, c'est devenu un monument de fanservice, quoi.
Voilà, et finalement, effectivement, tu as tout à fait raison, la recette pour Smash Bros a été la même pour Super Mario Kart, c'est on a un bon gameplay de base... On a une vraie innovation technique, on peut jouer en mode 7 à 2 parce qu'ils ont réussi à trouver l'astuce permettant de le faire. Voilà, donc on est capable de jouer à 2 et de jouer tout seul dans un jeu qui a un gameplay qui fonctionne. Et il faut voir que sur le premier Super Mario Kart, en fait, tous les trucs que tu connais après, le snaking, le long boost, quasiment toutes les techniques qui ont existé ou qui ont été découvertes sur les jeux suivants existaient déjà, presque toutes. Dans Super Mario Kart, y compris les boosts, genre je saute, je me tape contre le mur, je rebondis, je remets un champignon et en fait ça me donne un plus gros boost. C'est un truc qui a été découvert sur Mario Kart 7 et qui existait déjà sur Super Mario Kart. Donc voilà, les mecs ont vraiment juste, ils avaient un bon gameplay et ils ont fini par caler des personnages de Nintendo dessus, façon Smash Bros. Presque façon Splatoon aussi, parce qu'on se rappelle que sur les Splatoon, pendant un moment, les développeurs avaient dit que pendant un moment ils voulaient avoir Mario. Dedans, ils avaient vraiment hésité parce que, effectivement, c'était finalement reprendre la même recette. J'ai un bon gameplay de base, j'ai une bonne idée de de gameplay. Est-ce que je peux caler des personnages de Nintendo dessus pour donner de la personnalité au truc, et puis ça me permet éventuellement d'aller créer des trucs un peu foufou derrière.
Alors en fait, le fait qu'il y ait les mêmes bugs dans tous les Mario Kart, c'est que tous les Mario Kart utilisent le moteur de Mario Kart Super NES.
C'est bien sûr.
Ils ont juste refait la graphique.
Ça pourrait être le cas.
Ça veut dire qu'ils font des jeux HD avec un moteur de Super Nintendo. Les mecs sont des génies.
Les mecs sont des génies. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Ils ont... Voilà. On n'a rien inventé depuis la Super Nintendo.
Est-ce qu'il y a une touche pour passer en mode Super Nintendo?
Ce serait intéressant. Moi, ça m'intéresserait vachement.
Y a pas encore la console virtuelle.
Console virtuelle intégrée. Oui, non, parce que ça cannibaliserait les ventes de la console virtuelle, oui. Bref, par contre, la formule n'est pas tout à fait fixe, puisque le premier Super Mario Kart, on est à 4 coupes de 5 circuits, avec malheureusement énormément de circuits qui se répètent. Si Super Mario Kart a bien un défaut, c'est qu'effectivement, bah, t'as Choco Island, Choco Island 2, Choco Island 3, Choco Island 4, enfin c'est vraiment... Alors je sais pas si ça a à voir avec le support cartouche, ou avec le fait que c'était peut-être compliqué de dessiner autant d'assets... Parce que je rappelle que tous les personnages sont en 2D, donc il faut les dessiner de dos, inclinés à 20 degrés, inclinés à 40 degrés, inclinés à 60 degrés, enfin c'est quand même assez pénible. Donc je sais pas pourquoi il y a autant de répétitions, mais c'est vrai que t'as Ghost Valley 1 et 2, Bowser Castle 1 et 2 et 3, enfin bref.
C'est une question de facilité aussi, suffit que le temps de développement a été un petit peu restreint, et ils se sont limités à des assets similaires pour gagner un peu de temps, et faire des tracés un petit peu plus... et juste varier les tracés en fait.
Complètement, mais je pense que c'est... Il doit y avoir un peu de tout ça en réalité, il doit y avoir des contraintes de temps, des contraintes d'espace, des contraintes de développement, mais voilà, en tout cas, Super Mario Kart, en réalité, c'est un jeu qui est encore beaucoup joué aujourd'hui, il y a encore des tournois aujourd'hui de Super Mario Kart, il y a des gens qui maîtrisent très bien.
Ce que je trouve fou d'ailleurs.
Bah, c'est assez gueudin, parce que finalement, Mario Kart 64, il n'y a pas tellement de... Enfin, moi, j'en ai vu quelques-uns de tournois, mais c'est pas régulier, alors que Super Mario Kart, c'est vraiment le truc de référence sur lequel... T'en as tous les ans, ça marche, il y a des gens qui participent. Moi, je dirais que Super Mario Kart a deux défauts, donc ce problème de répétitivité des niveaux, qui est quand même un peu pénible à la longue, même si, bon, on s'y fait. Hein. Ça n'empêche pas que les tracés sont très bons. Même si c'est Choco Island 1, Choco Island 2, les tracés n'ont vraiment rien à voir. C'est simplement les mecs ont repris les assets et les obstacles et ont refait un circuit complet en se disant, oh là, on va mettre un raccourci là. Enfin voilà, je trouve que ça marche pas si mal que ça, c'est juste un peu dommage, parce que finalement, au lieu d'avoir 20 circuits avec de la personnalité, on a, on va dire, 10 circuits vraiment... Enfin, 10 environnements totalement différents, ou 8 environnements totalement différents, pour 20 tracés réellement différents. Ouais. Par contre, il a un vrai défaut, je trouve, aujourd'hui, pour les gens qui veulent y jouer, pour les plus jeunes d'entre vous, hein, les petits cons, c'est que la courbe d'apprentissage est juste ultra raide, et... Enfin, je trouve que le jeu est vraiment très difficile à appréhender. Quand on y a joué à l'époque, c'était déjà pas évident, mais il faut vraiment y passer un nombre d'heures assez hallucinant pour arriver à commencer à vraiment bien maîtriser le jeu, alors que sur les Mario Kart plus modernes, ben voilà, en quelques parties, on a appréhendé à peu près la physique du jeu, la façon dont les items fonctionnent, le fonctionnement de l'IA, et on s'en sort. Super Mario Kart, c'est quand même très très raide.
Bah, je sais que Super Mario Kart, j'ai pas beaucoup joué, simplement chez une copine il y a quelques mois, et je me faisais éclater. Alors forcément, je suis habitué au Mario Kart moderne, mais putain, enfin, je me dis que même avec un petit passif de joueur, bah non, c'était archi dur.
Bah, c'est-à-dire qu'il faut anticiper tous les virages. Je pense que le côté, dans tout jeu de course, en fait, il y a le côté appréhension de la physique, qui est un gros élément dans un jeu de course, et le deuxième gros élément de gameplay, c'est la mémorisation des tracés. C'est-à-dire que tu peux essayer de faire ce que tu veux dans un jeu de course, à un moment, tu vas mémoriser les tracés volontairement ou involontairement. Et en fait, dans ce Mario Kart-là, je trouve que l'appréhension de la physique est déjà pas simple, parce que même avec les personnages légers ou moyens, comme Mario, toutes les glissades et tous les dérapages sont consistants, je dirais, fonctionnent toujours de la même manière, mais les différentes surfaces sont prises en compte, et c'est vraiment pas évident. Je veux dire, une glissade dans Choco Island, c'est de la terre, donc tu glisses pas du tout de la même manière que sur la plaine Donut, tu glisses pas de la même manière que sur les circuits. Enfin, c'est quand même, je trouve, assez compliqué à anticiper, et pas forcément très instinctif. De ce point de vue-là.
Ouais,
et en plus, tu as la part mémorisation des tracés est quand même une part ultra importante, beaucoup plus importante que dans les autres Mario. Tu peux pas aller appréhender Super Mario Kart en mode je vois le virage qui arrive, je commence à tourner et ça va passer, quoi. Non, il faut vraiment anticiper quasiment tous les virages, les prendre systématiquement à la corde. L'IA est redoutable.
Et elle triche en plus.
Elle triche en plus. cette salope. Mais journalope d'IA.
Mais c'est vrai que le la réputation du Mario Kart, Super Mario Kart, c'est souvent un truc que les plus vieux reprochent aux récents, c'est qu'il est, enfin, par rapport, enfin, que lui donne un commentaire par rapport aux récents, c'est qu'il est vraiment beaucoup plus technique qu'un Mario Kart actuel et qu'il y a soi-disant moins de place à la chance, quoi. Moins d'objets pétés surtout.
Alors il y a quand même des objets bien pétés, hein. Ça... Le mec qui est dernier et qui a l'éclair, je te garantis qu'il met une race à tout le monde, hein. L'éclair, c'est vraiment totalement fumé. Alors ok, t'as pas de carapace bleue, mais franchement, c'est très très chaud. Bon alors, Drosgar, quand tu avais 2 ans...
Mario Kart 64 ?
Mario Kart 64.
Mario Kart 64 est un jeu multijoueur pour 4 personnes et marque l'arrivée de l'objet le plus détesté au monde, la carapace bleue.
Je suis pas sûr que ça marque l'objet... Moi j'aime bien la carapace bleue. Surtout quand t'arrives à l'esquiver et que le mec qui l'a lancé il est juste vénère.
Ceci dans Mario Kart 64, elle était encore esquivable, on va dire.
Ouais, c'était quand même un peu chaud. Hein. Fallait quand même avoir un peu de moule.
Oh bah, plus que dans les suivants, mais... C'est là où elle apparaît pour la première fois, mais du coup, c'était pas une carapace qui volait. Elle allait juste choper... Elle chopait tous les mecs qui étaient devant elle, elle roulait au sol comme les autres et elle shootait tout le monde.
Oui, effectivement, en fait, c'était un peu, enfin, c'était un peu le bonus craqué aussi parce que elle renversait tout ce qu'il y avait sur son passage, alors sauf si t'arrivais à l'esquiver, bien évidemment. Et le premier se la prenait dans la mouille avec une belle explosion.
Mais ouais, donc du coup, sur 64, c'était le gros argument multijoueur de la 64 puisqu'on pouvait jouer à 4 joueurs, hein. 4 joueurs en écran splitté.
C'est-à-dire que t'as quand même une grosse évolution. F-Zero, 1 joueur, Mario Kart, 2 joueurs, Mario Kart 64, 4 joueurs, ça commence à être pas mal. Hein.
À quand Mario Kart double dash à 8 joueurs? Ah bah attends, on en reparle.
Attends, Mario Kart 8 Deluxe.
Enfin moi c'est le premier Mario Kart auquel j'ai joué. Enfin, j'avais mes cousins qu'on jouait au super Mario Kart devant moi, mais c'est le premier 64 auquel j'ai joué. C'est un jeu qui pour lequel j'ai un très bon souvenir, notamment du mode bataille que je pense n'avoir jamais autant apprécié que dans cet épisode. Avec des cartes comme un gratte-ciel, que t'es toujours très très drôle à faire, et la possibilité de revenir en bombe quand on mourait, pour s'exploser sur ses alliés, c'était sur ses amis.
Je pense en que mode Suicide Squad, quoi.
Exactement. Et j'y ai joué il n'y a pas très longtemps avec des gens de Nintendo Man, et en fait c'est un jeu qui est... Surtout je m'étais jamais rendu compte à quel point les Mario Kart avaient été ralentis depuis, parce que celui-là va très 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 vite.
Ah ouais? Parce que moi je me rends pas bien compte, parce que c'est...
Alors on s'en rendait pas compte parce qu'on avait la version 50Hz en 60Hz.
Ah putain, oui, d'accord.
On a testé une version émulée 60Hz et ça va très très vite. Et du coup, le jeu est extrêmement drôle à jouer.
Mais en fait, je me rends compte que Super Mario Kart, j'y ai jamais joué en 60Hz. Faudrait peut-être que j'essaye, parce que si ça se trouve, ce sera encore plus difficile.
Il y a des chances. Mais pour le coup, le 64, alors je connais pas Super Mario Kart, mais je pense que c'est un des épisodes les moins techniques auxquels j'ai joué. Parce que les cartes sont un peu des savonnettes, il n'y a pas autant d'importance marquée sur le dérapage, et tu as des tracés qui sont extrêmement larges. Enfin, on se plaint des tracés actuels, mais je trouve qu'ils
comme
étaient...
Comme ton cul.
Oh. et du coup, c'est un épisode qui est vraiment très fun, très facile à prendre en main, vraiment très amusant. Avec plein de... Enfin, moi, j'ai un souvenir un petit peu nostalgique de cet épisode, hein, que je trouve vraiment très bon en tout cas.
Alors à titre personnel, pour y avoir joué, alors j'y ai jamais joué au moment de sa sortie, en fait. J'ai joué à Mario Kart 64 quelques mois après sa sortie, parce que le premier jeu que j'ai eu sur N64 c'était GoldenEye 007 et ça m'a déjà occupé quelques mois, parce que le jeu était pas simple. C'est la première fois que je jouais à un FPS de ma vie.
Un FPS console en plus, super.
Un FPS console, oui, mais le meilleur FPS console. Et à l'époque, je veux dire, mes copains de l'école qui avait la chance d'avoir des PC, ce que je n'avais pas parce que j'étais pauvre, en tout cas des PC qui faisaient tourner autre chose que DOS, et qui jouaient à Duke Nukem 3D, quand on leur montrait GoldenEye 007, ils étaient en train de baver, quoi. Parce que Duke Nukem 3D et Doom à côté, ça ressemblait à rien, quoi.
Ouais, mais c'est pas la même époque, maintenant.
C'est pas la même époque, mais le fait, ils étaient tous jalouses de GoldenEye 007, alors que, voilà, ils étaient censés être sur la PC Master Race, et la PC Master Race, elle se faisait quand même bien tailler des croupières.
Ouais, à l'époque, elle était pas très Master Race. Hein.
Bah, disons que rien que... Enfin, si, c'était Master Race, mais c'était tellement compliqué d'arriver à faire tourner un jeu que... Voilà, si t'avais la 3DFX Voodoo 2 et pas la 3DFX Voodoo 1, le jeu, il marchait plus. Enfin, c'est quand même l'énorme bordel, quoi. Mmh. Moi, ce que je retiendrai de Super Mario 64, du coup, c'est que j'y ai joué après Diddy Kong Racing. et que ben du coup moi j'ai pas autant apprécié. C'est-à-dire Diddy Kong Racing est vraiment un excellent jeu
avec mais des tracés. Mais
il y a que des shitty frames.
C'est non, il problème... y a Banjo et Conker ouais, avant, qu'ils avant qu'ils apparaissent vraiment dans leur jeu.
Mais alors le Diddy Kong Racing en fait a un vrai défaut, c'est que le jeu a vraiment zéro personnalité. Parce que ben, Diddy Kong c'est sympa comme personnage, mais si tu veux c'est à peu près le seul personnage sympa. Il y a Banjo qui est sympa aussi, il y a Conker qui ressemble à rien, mais les autres persos sont vraiment... Enfin voilà. Par contre je trouve que les circuits sont mieux foutus. Alors déjà le jeu est 100% en 3D, c'est pas cette espèce de perso 2D sur décor 3D un peu bizarre.
Ah oui, il est toujours très étrange à revoir Mario Kart 64. C'est,
ouais voilà, il a vraiment un look bizarre, en plus il a une géométrie extrêmement simpliste parce que c'était un des premiers jeux N64, donc tu sens que les courses commencent à être en relief, c'est-à-dire t'as de la, tu sais, t'as le gratte-ciel tout ça, donc tu commences à avoir de la verticalité, ce qui est nouveau, hein, je veux dire, c'est quelque chose que tu peux pas faire si t'as pas de 3D. Mais je trouve que niveau verticalité, Diddy Kong Racing avait géré ça beaucoup mieux et je garde personnellement de bien meilleurs souvenirs de Diddy Kong Racing que de Mario Kart 64.
Pas trop joué à Diddy Kong Racing pour le coup.
Bah, je trouve que les circuits ont énormément de personnalité, ils ont vraiment un super bon feeling.
Il y avait des circuits très sympas quand même sur Mario Kart 64. Alors,
justement, est-ce que tu as des circuits préférés sur Mario Kart 64 que tu voudrais évoquer?
Alors, la Rainbow Road, sa seule qualité pour moi sera la musique, sinon c'est un circuit abominablement long.
Oui, il fait genre 10 minutes.
Ouais, c'est ça. T'avais les longueurs des circuits, lui, bah, c'est le seul qui dépassait les 2 km.
Oui, voilà, c'est ça.
Et c'est pas les Rainbow Road actuels où il y a peu de barrières, des virages serrés et tout. Non, non, il y a des barrières partout. Et
c'est une ligne droite quasiment.
Enfin, bah, c'est un peu le défaut des circuits sur 64 parfois, c'est qu'il manque un peu de pep sur certains.
Un peu de folie, je trouve. Voilà, cette folie en question,
temps,
tu l'as. Oui.
Il y a le raccourci de Master Race dessus.
Oui, évidemment, mais alors lui, quand j'avais rejoué avec les mecs de Nintendo Man, c'était un défi de réussir à le passer. J'y suis arrivé, une fois. Jamais depuis.
Mais donc toi, ce qui t'a marqué en dehors de Rainbow Road
qui est... En circuit, que j'aime beaucoup, donc il y a les deux premiers de la Special Cup, qui donc sera la dernière coupe. D'ailleurs, c'était à l'époque où ils ont mis le format 4 coupes, 4 circuits. Hein.
Exactement, c'est le format définitif 4 coupes, 4 circuits.
Moi j'aimais beaucoup les deux premiers de la Special Cup qui étaient la jungle des cas avec son bateau qui passait et la Yoshi Valley où en fait tu ne savais pas qui était en tête.
Oui, parce que c'était le bordel.
Voilà, en fait c'était un labyrinthe et j'aimais bien le concept du circuit qui n'a jamais été refait depuis en fait dans un autre circuit de Mario Kart. C'est un petit peu dommage. Sinon, le troisième que j'aurais envie de citer. Le stade Wario, alors qui est pas un circuit qui a l'air très passionnant comme ça,
ouais,
c'est un terrain de motocross, mais il y a cette espèce de grande pente à un moment. Et si t'es un peu un connard, t'attends que tes copains soient un peu dans le vide et tu lances ton éclair pour qu'ils tombent tous par terre et qu'ils doivent refaire tout le terrain. Parce que c'était aussi le Mario Kart de la fils de puterie à un niveau assez incroyable, c'est que dans un épisode moderne, tu tomberais dans ce trou. L'acquitude te remettrait juste devant le tremplin, bah là non, tu te démerdes.
C'est l'épisode de la puputerie ultime.
Voilà, donc ce truc est toujours très drôle à faire, et quand tu arrives à pourrir la course de quelqu'un avec ça, bah, tu peux éprouver une certaine fierté.
Satisfaction et personnelle.
En regardant ses yeux pleins de haine, parce que tu viens de lui foutre un demi-tour dans la gueule.
Je comprends, ça me paraît très justifié. Moi, si je devais retenir... alors, Yoshi's Valley, je l'avais retenu aussi. Il y avait le désert aussi, que j'avais bien aimé avec le train.
Le petit train, hein.
Parce que c'est pareil, c'est le genre de truc où si tu te démerdes bien, ben, en fait, tu passes juste devant le train et les autres connards, ils se le prennent dans la gueule ou ils sont obligés d'attendre.
Ou plus drôle, toi, tu passes avec les toits pendant que les autres attendent.
Exactement.
Et tu défends les autres au passage. C'est pas drôle.
Ça fait super plaisir de voir ce genre de choses-là. En 2001, sur Game Boy Advance, il y a Mario Kart Super Circuit qui est sorti. Alors, j'ai personnellement une histoire très compliquée avec ce jeu, parce que j'ai essayé de le choper d'occasion pendant des mois, sans jamais y arriver, en tout cas jamais à un prix correct. Et j'ai fini par le récupérer, et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, voilà, c'était sympa.
C'est Mario Super Circuit sur console portable en fait.
Ben c'est à peu près ça. Alors
c'est Super Mario Kart sur console portable. D'ailleurs les circuits de Super Mario Kart sont dedans.
Exactement. Ouais,
c'est ça, Super Mario Kart. Super
Circuit, c'est pas vrai. Alors il y a quelques très bons circuits dedans. Je trouve qu'il est beaucoup plus abordable que Super Mario Kart. Le niveau de difficulté a vraiment été largement baissé. Et il est un petit peu plus, je dirais, facile à prendre en main. La courbe d'apprentissage est quand même nettement moins élevée. J'ai réussi à le finir, y compris en 150cc, sans forcément avoir énormément d'entraînement derrière. Donc c'est vraiment... c'est à la portée de tout le monde. Il a par contre Il est beaucoup plus joli que la version Super Mario Kart, et beaucoup plus fin. Il y a quelques circuits très 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 sympas, je pense notamment à Sky Garden ou Sunset Wilds, qui sont vraiment des très bons circuits. Il y a aussi le circuit,
Ribbon Road. Le circuit des jouets aussi.
Ribbon Road.
Ribbon Road, voilà, je crois que tu as dit Rainbow Road. Ribbon Road, oui, qu'on a dans...
Donc, qui a été refait de manière absolument magistrale dans Mario Kart 8, c'est vraiment un excellent circuit. Dans les circuits rétro, qui étaient dans le DLC 1, si je dis pas de bêtises.
Le 1 ou le 2.
Le 1 ou le 2, oui.
Je crois que c'était le 2. Qui est dans Mario Kart 8 Deluxe, du coup.
Mais qui est extraordinaire, et la version d'origine est pas mal non plus, en fait. Elle est vraiment très sympa aussi, avec plein d'assets rigolos, très colorés. Bon, après, je sais pas, c'est pas mon épisode préféré, en fait. C'est-à-dire que c'est sympa d'avoir un Mario Kart on the go. Je veux dire, en 2001, ça devait vraiment être... Pour les gens qui avaient connu Super Mario Kart, ça devait être vraiment le trip nostalgique à fond, plus le fait d'avoir un Mario Kart très complet, 4x4 circuits, plus tous les circuits de la version Super NES en bonus.
Et les premiers circuits rétro.
Les premiers circuits... Enfin, pas vraiment, parce qu'il faut les débloquer, après ça ouvre la coupe, machin, c'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, donc bah, je grossis le trait, évidemment.
Ouais, mais c'est... Enfin voilà, c'est pas mon épisode préféré. En 2001, je peux comprendre que ça a eu de l'attrait. Mais c'est vrai qu'à posteriori, il est quand même pas extraordinaire. Je sais pas si... Alors Drosgar, du coup, celui-là, tu y as peut-être joué quand t'étais petit.
Alors, j'y ai joué un peu parce que j'avais chopé à... Me tape pas, mais à 3€ dans une brocante.
Enculé.
Voilà.
Alors moi, je l'ai chopé à 3€ dans une brocante, complet, en boîte, il y a 3 ans, au Vésinet. Alors si vous voulez un bon plan, les petits gars, je vous le donne gratuitement, vous allez faire les brocantes du Vésinet. Alors faire les brocantes de Bourges, c'est toujours une expérience intéressante, parce que tu te rends compte que t'es très pauvre, c'est la première, et que les mecs n'ont absolument aucune notion de ce que valent ce qu'ils vendent.
Mais ça,
c'est vachement intéressant.
Ça, j'aurais des commandes à faire.
Un jour, je tomberai sur une Neo Geo complète avec 10 jeux, et je la récupérerai pour 5€, parce que les mecs s'en battent les couilles. Ça arrivera.
Ce serait beau.
Je prie pour toi.
On viendra jouer chez toi.
C'est vrai que Mario Kart sur Game Boy Advance, j'ai connu un peu tard en fait. Je l'ai récupéré après Mario Kart DS. Et ça fait mal. Du coup, il m'a toujours fait chier en fait. Je suis content de l'avoir parce que je l'ai, hein, c'est sûr. Mais j'ai jamais trop joué parce que bah forcément, quand j'ai Mario Kart DS à côté ou même ceux sur console de salon, ça fait pas le poids forcément.
Mais je dirais que c'est peut-être l'épisode qu'elle... Parce qu'à la limite, Super Mario Kart a toujours une espèce de petite communauté, et c'est toujours un jeu culte, et effectivement, il y a une courbe d'apprentissage très raide, mais une fois que t'as maîtrisé le machin, je pense que tu t'amuses encore bien, il est très technique. Mario Kart Super Circuit a le côté un peu pas super beau, un peu pâteau de la version Super Mario Kart, mais sans le côté technique.
Je crois que c'est un des épisodes les moins... Enfin, pas les moins appréciés, mais les moins populaires, quoi.
Ouais, je pense aussi.
Et ça se comprend.
Et ça se comprend un peu.
Oh bah moi, j'y ai joué, j'avoue que j'en ai à peu près aucun souvenir, en fait.
Ah putain, c'est bien. Donc il t'a vraiment pas marqué, quoi.
Ah non, mais en fait, je trouve que c'est un peu à l'image de tout ce qu'a fait Nintendo avec Mario sur Game Boy Advance, c'est-à-dire que plutôt que de faire des trucs un peu originaux, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait sur Nintendo.
C'est vrai que pendant un moment...
Mario sur Game Boy Advance, c'est du remake, c'est du portage, et bon, Super Circuit, on voit que c'est très très inspiré, quoi.
Mais c'est vrai que pendant un moment, la Game Boy Advance donnait l'impression d'être une Super NES portable, et c'est vrai que c'était quand même un peu ça, on était en...
Ah, c'était pas le cas ?
Bah non, c'est pas du tout le cas, en fait, c'est pas du tout la même architecture, hein. Vraiment...
Même en termes de, jeux, on a eu beaucoup de jeux Super Nintendo dessus, mais...
Il y a eu beaucoup de portages de jeux Super Nintendo.
Il y a quand même pas mal de jeux originaux, quoi.
Mais c'est vrai que c'était pas la meilleure période de Nintendo. Ils ont sorti une plateforme qui était vraiment super bien foutue. Ils ont sorti quelques bons jeux dessus, faut quand même pas cracher dans la soupe. Mais c'est pas eux qui ont sorti les jeux les plus originaux.
Oh, bah moi, mon jeu préféré, Game Boy Advance, ça reste quand même Fire Emblem. Donc bon. Et les Metroid étaient très très bons.
Les Metroid étaient très 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 bons.
Bah, c'est Yoshi's Island, donc forcément...
Il y a les Golden Sun aussi, enfin, bon, on n'est pas là pour parler de la GBA.
Non, on n'est pas là pour parler de la GBA, mais c'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement, je trouve que pour les licences phares de Nintendo, c'est-à-dire effectivement Mario, Zelda... sur Game Boy Advance, t'as eu Four Swords Adventures, qui était un portage d'un jeu Super NES.
Non, c'était Link to the Past.
Four Swords.
Avec Four Swords dedans.
Et t'as eu Minish Cap, qui était sympa, mais qui était fait par Capcom.
Ouais, qui était un peu dans la lignée des Zelda, les derniers Zelda sur Game Boy, quoi. Les deux oracles.
Bon, bref.
Ouais, du coup, maintenant,
dans
parlons d'un bon jeu.
Mal aimé, il y a aussi Mario Kart Double Dash sur GameCube. Alors, je vois pas pourquoi vous l'aimez pas, celui-là. J'arrive pas
moi
à
aussi je l'aime.
Le PC, l'ordinateur cheat encore plus que d'habitude.
Mais c'est la mauvaise foi, ça, c'est parce que t'es mauvais.
Moi, ouais, j'aime pas le feeling du jeu. C'est comme ça, j'aime pas les designs, j'aime pas la façon dont se conduisent les cartes. J'aime pas le principe d'avoir des personnages avec des objets spécifiques. C'est ça qui me dégoûte le plus, et surtout en l'épisode où en fait si tu prends pas les légers, le jeu il est vraiment pas agréable à jouer.
Mais
je suis d'accord.
Oui, je suis d'accord aussi que les personnages lourds sont moins agréables à jouer, mais je veux dire, quand tu joues à deux sur un kart, c'est comme le trip, quoi.
Ça, c'était un bon fun. On s'est fait une après-midi avec des potes où on s'était mis à deux. On s'était mis en par paire sur les cartes et on a fait le grand chelem, le tournoi grand chelem où on enchaînait toutes les courses d'affilée et c'était vraiment fun pour le coup.
Par contre, par paire, je trouve que tu te fais chier.
Bah, moi je trouve pas parce que justement, si
il y a plus de stratégie déjà.
Il y a beaucoup plus de stratégie. Déjà, le mec qui est derrière, il peut aller frapper les mecs qui sont à côté, ce qui est quand même une première. Et quand il frappe, il peut décaler le kart. Donc, moi ça m'est souvent arrivé que le mec qui était derrière moi. Aucun sous-entendu scabreux. Hein,
Oui, bien sûr.
Le mec était derrière moi, frappe un coup sur le côté et que ça me fasse dévier très légèrement de ma course pour éviter une banane, un machin, un truc. Donc en réalité, si le gars qui est derrière est bien réactif, il peut te dévier très légèrement de ta trajectoire pour éviter un obstacle ou pour éviter que tu prennes un mur ou quelque chose comme ça. Et c'est vachement intéressant parce que toute la physique du jeu, quand tu joues tout seul, en fait, la physique du jeu te permet pas d'aller faire des micro-corrections de trajectoire pour éviter un obstacle. Et ça, c'est très frustrant, je trouve. C'est-à-dire, quand tu joues tout seul, tu te rends compte que si t'as pas pris la bonne trajectoire dès le départ, tu vas le bouffer, l'obstacle. Tu pourras pas corriger ou donner un petit coup de frein ou machin, ça marchera pas. Alors que ça marche très bien sur Mario Kart 8. Tu peux vraiment arriver à dévier de ta trajectoire et à dévier du cul si t'as besoin. Là, c'est vraiment le mec qui est derrière qui doit t'assister pour ça. Donc quand tu joues avec une IA derrière, ben, c'est pas très agréable. Par contre, quand tu joues avec un partner qui est juste derrière toi tout le temps... Qui te coach, et en plus, le fait de pouvoir inverser, c'est-à-dire de dire, bah ok, t'as piloté sur ce circuit-là, celui-là, je le connais mieux, on inverse, c'est vachement agréable aussi, quoi. Donc je sais pas. Et puis en plus, je trouve que... alors, peut-être que les traces... Peut-être que les circuits avaient pas forcément beaucoup de personnalité, ça, je veux bien vous l'accorder. Néanmoins, il y a quand même... Les circuits sont quand même, je trouve, un peu foufou, quoi. Genre, circuit Yoshi, c'est quand même un des circuits les plus techniques.
Ah, il est génial. Il y a vraiment des bons trucs dans cet épisode.
Le paquebot Daisy, il est génial. La plage Peach,
ils sont tous
énorme.
Mémorables.
La montagne Deka, c'est énorme. Enfin, tu vois, je trouve que les circuits ont des tracés vraiment...
Je pense que c'est un bon jeu, mais c'est pas un Mario Kart que j'apprécie parce que j'aime pas le feeling du jeu. Ça tient vraiment qu'à ça pour moi. Ça peut paraître un détail, mais moi j'ai du mal avec le feeling. Vraiment.
Bon, Drosgar, toi qui l'as bien retourné, tu vas me soutenir, c'est un bon jeu.
Alors, je trouve que c'est un bon jeu, mais le problème c'est qu'en fait, je l'ai beaucoup retourné à l'époque, j'adorais, je passais énormément de temps dessus. Et maintenant, quand je vais chez une copine, on joue beaucoup à Mario Kart Double Dash, je me fais éclater parce qu'au final, c'est vrai que par rapport au côté un peu plus glissant qu'il peut y avoir dans celui sur Wii ou celui sur. Enfin, tous les épisodes pardon, qui sont sortis après, et ben, je me perds un peu dans ce côté un peu rigide. Ça me gêne pas, c'est juste que c'est un coup à reprendre, mais c'est vrai que du coup, ça me fait un peu chier d'être mauvais. Ouais, c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être le fait d'être mauvais qui me bloque.
Ah. Mais t'inquiète pas, ça arrive à tous les hommes.
Surtout à vous. Et du coup, par contre, le concept d'avoir deux persos sur le kart, vraiment à l'époque, enfin, j'étais comme un fou. Je jouais à mort chez un copain, je devais. Alors, jamais quel âge ? Attends, il est sorti en 2003.
T'avais 8 ans.
Il est sorti en 2003. Ouais, j'avais 8 ans. Du coup, attends, est-ce que je compte bien ? Non.
Oui, t'avais 8 ans.
Mais non, j'avais.
Et ouais, dans 95.
On va dire que j'avais 8 ans. Ouais, 95.
Donc t'avais 8 ans.
Ah ouais.
2003 moins 1995 égale 8. Le compte est bon.
Donc bon, on va dire que j'avais 8 ans. Et je jouais tout le temps chez un copain. Donc en plus, je me souviens, j'allais tous les dimanches chez lui quasiment. Je devais y aller à pied. J'allais aller.
Au lieu d'aller à la messe, comme t'as dit, monsieur Fillon, c'est très très mal.
Ah oui, forcément. Merci François. Merci pas François d'ailleurs. Il fallait que je me mette. Enfin, fallait que je marche une demi-heure pour aller chez lui à pied. Je traversais une forêt, c'était n'importe quoi. Mais à la fin, je jouais à Mario Kart. Je découvrais la GameCube, ou le GameCube pour les vieux cons. Et ça, c'est les souvenirs qui partiront jamais.
Et les Québécois.
Et ben non, c'était à Clermont. Et
Alors, il a pas compris en fait.
Mais c'est pas grave, parce que c'est les Québécois qui disent le GameCube, je sais bien.
Non, ils disent pas le GameCube, ils disent
le cube de jeu. Ils disent le cube de jeu.
Le cube de jeu.
Ils disent vraiment ça ?
Non, ils disent le GameCube.
Non, ils disent le cube de jeu, t'es malade.
Mais non, ils disent pas le cube de jeu, arrêtez.
Déjà, ils disent la station de jeu 4.
C'est bien, c'est pareil.
La boîte X. La boîte X1.
Ils disent le commutateur.
Le commutateur.
Et donc, au final, c'est vraiment bah, un des jeux qui m'a poussé à acheter une console de salon. Donc, rien que pour ça, en fait, je pourrais jamais en vouloir à ce jeu. Mais même s'il pourrait avoir tous les défauts du monde, je pourrais jamais dire qu'il est mauvais parce que bah, ça m'a vraiment poussé dans le jeu sur console de salon.
Ouais, voilà, mais c'est... Je pense
et putain, le mode Bobombe, on joue sur A4 sur le terrain, le Blockville, Block City, Blockville. Oui. Mais en mode Bobombe, c'est formidable.
En mode Bobombe, c'est juste la folie.
Ah, le terrain GameCube est très bien aussi.
Le terrain GameCube aussi, mais bon, A4, on se rend super vite.
Et d'ailleurs, on parlait de Mario Kart 64, jeu A4, mais Mario Kart Double Dash, jeu A8, puisqu'on pouvait connecter deux consoles pour jouer A4.
Jeu A16.
Écoutez,
Non, ça, on pouvait pas.
Si, si tu peux avec 4 consoles.
Ah ouais?
Oui. Je suis pas sûr qu'il y a 4 consoles.
Oui, mais c'est possible.
Alors, tu pouvais jouer en LAN sur Mario Kart.
Mon plus grand regret de ma vie, c'est que il y a un magasin de jeux vidéo qui a fermé à Compiègne. Alors, il a fermé parce qu'en fait, il était juste en dessous d'un autre magasin de jeux vidéo, ce qui était très con. Donc, je sais pas ce que le mec a branlé. Et en fait, le mec a liquidé son stock. Et j'ai récupéré un adaptateur LAN pour 5€. J'étais super content. Et je me suis dit, un jour, je ferai une LAN sur Mario Kart Double Dash. Un jour. Et je l'ai jamais fait. J'ai jamais réussi à trouver quelqu'un qui avait un adaptateur LAN.
Il a fallu en acheter un deuxième.
Aussi un adaptateur LAN, donc on pourrait s'organiser ça.
Putain, mec, tu me fais grave envie là. Il va falloir qu'on essaye un jour.
Il va m'entendre râler pendant toute la partie si je viens.
Non, mais franchement, un jour j'aimerais bien faire un. Il y a quelqu'un qui m'avait suggéré un jour.
Par contre, faut deux télés. Hein.
Oui, par contre, faut deux télés. Mais ça, c'est pas très compliqué à trouver. Je pense qu'on peut y arriver. Mais un jour, j'aimerais vraiment arriver à le faire, à jouer à 8, à 2 sur un carte, 2 cartes par console, 4 machins, et puis essayer d'arriver à jouer en LAN, parce que j'aimerais bien savoir si ça marche, quoi, simplement. Moi, j'ai l'option LAN qui est magnifique en surbrillance sur l'écran d'accueil, parce que j'y joue sur une GameCube avec un adaptateur LAN, mais j'ai jamais pu essayer. C'est quand même triste. Je suis triste. Si vous aussi, vous avez des GameCube avec des adaptateurs LAN, envoyez vos dons. Pour que je sois moins triste.
Envoyez des sous.
Voilà, du pognon, vite.
On va faire un Tipeee. Ah, c'est déjà fait.
Merde, on a déjà chié dans la colle. On va enchaîner assez rapidement sur Mario Kart DS. Alors, je pense pouvoir dire que c'est peut-être l'épisode préféré de tout le monde, on va dire, sur console portable.
Ben, globalement, et surtout, c'est le... Je pense qu'actuellement, c'est l'épisode le plus important, parce que toute la formule actuelle de Mario Kart vient de cet épisode.
Exactement. La Formule 1
Ouh, parce que c'est celui où on a eu les circuits rétro. À peu de choses près, le feeling de la conduite est à peu près le même depuis cet épisode. Ils n'ont pas essayé de rajouter des trucs bizarres type 2 sur le kart.
Les modes multi en ligne est arrivé avec celui-là.
Voilà. C'était le premier jeu en ligne de Nintendo.
Tout à fait.
C'est vrai. Par contre, c'est, je crois, le seul jeu Mario Kart où il y a eu des missions.
Il y en a eu sur Wii, mais c'est à peu près le seul qui a un contenu solo il y en a eu sur Wii de façon temporaire, on va dire.
Anecdotique, d'accord.
Ouais, mais c'est le seul épisode qui avait un contenu, on va dire, solo plus conséquent que d'habitude.
Et étonnamment, ça a été un épisode qui a été vraiment extrêmement important parce que ça a été un des épisodes, je pense, les plus populaires de Mario Kart parce que c'était sur DS qui était une console déjà très populaire. Il marche très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais étonnamment, quand j'ai re-regardé un peu les circuits et que j'ai relancé le jeu pour voir un petit peu, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de circuits très marquants. En tout cas dans les nouveaux. C'est-à-dire que les rétros, il y en a plein qui ont été refaits et qui marchent très bien. Mais je trouve que sur les circuits classiques, on va dire, enfin les circuits, les nouveaux circuits, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de circuits très très marquants en dehors de, on va dire, Horloge Tic-Tac, Forteresse Volante, peut-être Manoir de Luigi, mais... Voilà, t'as 3-4 circuits qui sont vraiment très marquants et je trouve que
Quartier
les autres
Delfino
sont...
Quartier Delfino aussi, il y en a quand même.
Quartier Delfino était quand même pas fou.
Oh si, je l'aimais bien, avec son petit pont, avec l'accélérateur dessus. Enfin, je sais que dans mes potes à l'époque, là on était vraiment gamins. Et qui n'a jamais joué à Mario Kart en multi dans un bus de colonie de vacances ou dans un bus pour partir en voyage scolaire à 8 n'a pas connu le vrai Mario Kart DS. Enfin, là, c'était formidable.
Alors moi, le Mario Kart DS, j'y ai joué en mode local avec des gens. J'y ai joué sur Internet sur ma DS. Et même sur ma DS Fat, pour te dire à quel point...
Ouais, pareil.
C'était voilà. Et sur la DSi derrière. Donc il n'y a pas de souci, hein. On voit bien ce genre de truc-là. Mais je l'ai surtout énormément saigné en solo. Il y avait un contenu solo qui était monstrueux, je trouve.
Ouais, je suis d'accord.
Ah ouais, c'était un super jeu solo. Et on parlait des circuits, mais je trouve très dommage que vous ne m'enseigniez pas le Flipper Luigi.
Ah oui, bah... celui-là il vaut vraiment le coup. Non, celui-là est vraiment très original.
C'est, oui, c'est hyper original.
C'est vraiment un des meilleurs. Hein.
Mais j'ai toujours eu un peu de mal avec. Je sais pas. Il m'a jamais plus que ça en fait. J'ai toujours trouvé justement trop coloré et ça faisait trop. Bah, vous savez, le petit côté un peu Banjo-Kazooie du genre. Ouh, on s'amuse.
Moi,
c'est
je suis trop scar. Je suis un mec sombre. J'aime bien quand il y a pas de couleur. Je suis dark.
En fait, c'est toi, Darkling 64.
Tout s'explique.
Darkling 63. Non mais le problème c'est que justement c'était trop coloré et on avait l'impression, enfin c'était mon impression à l'époque, que ça se voulait justement coloré pour coloré, mais qu'au final il était un peu fade. Ouais.
Moi je trouve que le jeu en lui-même est excellent, la physique est excellente, j'ai vraiment pas de soucis majeurs avec ce jeu.
Ah oui, par contre, le jeu pas de soucis.
En termes de gameplay, en termes de jouabilité, il est vraiment pas de problème, 10 sur 10. Mais je trouve que les circuits sont quand même pas totalement ouf, quoi. C'est un peu... Par rapport à Mario Kart Double Dash, je trouve qu'il y a beaucoup de très très bons circuits. Je trouve que les tracés, vraiment juste les tracés sur Mario Kart DS sont quand même moins foufou.
Bah, on voit qu'on est sur DS, t'as moins de puissance, donc je pense qu'ils ont pu faire un peu moins les fous. Mais en vrai, le manque de folie des tracés, je pense que c'est un problème de tous les épisodes portables.
C'est peut-être ça, ouais, parce qu'effectivement, quand tu regardes les épisodes portables, t'as Super Circuit, bon, qui est pas complètement, enfin voilà, qui est un peu en demi-teinte. Mario Kart DS, qui est un excellent jeu, mais où les circuits sont quand même pas foufou. Et on en parlera juste un tout petit peu après. Mais il y a Mario Kart 7, qui est pareil, est quand même pas, c'est quand même pas la folie non plus, quoi. Mais juste avant, Mario Kart Wii.
Mario Kart Wii, l'épisode quand même qui s'est vendu à 30 millions d'exemplaires.
Tout va bien.
C'est un très bon score pour du Mario Kart. Hein.
Et pourtant, c'est pas considéré que. Enfin, c'est 30 millions d'exemplaires pour un jeu qui a été souvent considéré comme pas si top que ça.
Alors, en fait, c'est un épisode qui est pour le coup assez à l'image de la Wii, qui est très casual. Enfin, le gimmick, on va dire, montré, c'était de pouvoir conduire en tournant sa manette. Ce qui offensera tous les joueurs vétérans de Mario Kart, mais qui en fait, quand t'as un gosse, c'est vachement sympa.
Je joue avec le gyroscope.
Mais je confirme, mais moi personnellement, Mario Kart, oui, j'y joue toujours avec le gyroscope.
Mais t'as pas de race aussi.
Il y a des enfants.
Non, j'ai des enfants, et j'y ai joué avec le gyroscope, et pour les enfants, c'est ultra instinctif. Et le moment où les gamins te disent « Est-ce que maintenant on peut y jouer avec une manette ?» C'est là où tu te dis « Ok, ils ont compris que s'ils veulent passer la vitesse supérieure, il faut faire ça. » Mais je trouve que le jeu reste malgré tout très 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 jouable juste au gyroscope. Hein. Vraiment très précis.
Du coup, c'est un jeu qui a été pas mal sympa. Enfin, je pense qu'il a été aussi pensé pour le gyroscope. C'est le premier épisode où on a 12 personnes sur le circuit.
Exactement.
Donc on a des circuits qui sont vraiment larges et en ligne, ça permet aussi d'avoir beaucoup de monde. Et surtout, c'est l'épisode connu pour être l'épisode du...
Briseur d'amitié.
De la fête aux objets. Enfin, je pense que toute la réputation de la carapace bleue peut venir à lui seul de cet épisode. C'est-à-dire que les éclairs pleuvent, les étoiles pleuvent. Les étoiles étaient complètement pétées à l'époque parce qu'elles te permettaient d'aller plus vite. Les carapaces bleues, t'en avais une à chaque tour. Donc c'était, quand t'étais premier, tu t'en prenais mais plein la gueule.
Ça, je confirme, quand t'étais premier, fallait vraiment avoir 20 secondes d'avance sur le deuxième si tu voulais espérer finir.
Il y a un côté technique qui est présent, notamment avec l'apport des motos qui apportait à une sorte de jeu différent et qui était aussi assez forte puisque tu pouvais conduire sur une roue et aller plus vite en échange d'une maniabilité particulièrement revue à la baisse. Mais du coup, c'est un épisode assez foufou, on va dire, dans l'esprit. Et je pense que c'est ça qui a pas trop plu, en fait. C'est vraiment ce côté, c'est très facile d'avoir des objets puissants.
Oui, puis t'as un peu le côté, ça part un peu dans tous les sens, en fait. C'est-à-dire que t'as des motos, des cartes, des objets super puissants. T'as effectivement l'impression, je pense que c'est un des rares Mario Kart où j'ai vraiment l'impression que même si t'es très 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 bon techniquement et que tu pilotes très 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 bien, tu peux quand même te faire baiser le cul parce qu'en réalité t'en prends quand même plein la gueule, quoi. Et ça, c'est vrai que ça reste relativement problématique, ce genre de choses là.
Et je pense, moi je pense que c'est ça qui a déplu. Après, le jeu avait un mode online qui était plutôt sympa, quelques bonnes courses. Bon, une interface qui était malheureusement très Wii, un petit peu impersonnelle. Je trouve que c'est quand même plutôt un chouette jeu et qui était très agréable à jouer en ligne, mine de rien.
Et avec quelques excellents circuits, hein, y a notamment le circuit qui était 100% dans les arbres, là, je sais plus comment il s'appelle.
L'automne, là ? Les arbres...
Tu sais, les arbres en automne, là, voilà, ouais. Le circuit, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est...
Bois vermeil ?
Le Bois Vermeil, exactement. Merci
avec
beaucoup,
Rosgar. Avec les chenilles, je sais plus comment ça s'appelle de toute façon.
Voilà, mais c'est,
les Wigglers.
C'est ça, les Wigglers.
Mais les, je trouve qu'il y a quelques très bons circuits, genre la Mine Wario, le supermarché, qui était quand même assez rigolo.
La Prairie Meumeux.
La Prairie Meumeux était marrante.
J'aime beaucoup le circuit Koopa, où tu dois dévaler des rapides en carte. Le Cap Koopa, voilà.
Celui-là, je l'aime bien. Par contre, celui que j'aime pas du tout, c'est dommage que le nom me plaisait, mais la Route Claire de Lune, il y a trop de voitures, c'est chiant. Et du coup, ça vient vraiment...
Les circuits en ville, genre taux de machin, depuis Mario Kart 64, je trouve qu'ils sont insupportables, en fait. C'est qu'au final, ça fait que des routes à angle droit, c'est pas du tout agréable à jouer, et même quand ils ont essayé de varier un peu avec Double Dash, tu sais, où t'avais le pont, je sais pas, ça s'appelle la ville Toad ou une
connerie comme ça. La ville Toad, c'est celui où tu pouvais te paumer, justement.
Ouais, c'est ça.
Bah ouais, mais du coup, moi je trouve qu'ils sont chiants, ces circuits, quoi. Champy City, enfin, je sais plus comment ça s'appelait, mais... Je trouve qu'ils sont un peu emmerdants, ces circuits, c'est vraiment pas les meilleurs, quoi. Je comprends pas pourquoi ils continuent à le faire, parce que bah, t'as de la circule, t'as des machins, enfin, c'est rigolo 5 minutes, quoi, mais...
Ça apporte de l'adversité, mais bon...
Ça apporte pas grand-chose. Les seuls qui, pour moi, qui étaient un peu réussis, celui de Double Dash, c'était pas trop mal avec le pont, là, c'était plutôt rigolo. Et celui Mario Kart Wii était sympa, parce que tu pouvais grimper sur certains... Enfin, tu pouvais te servir de certains camions comme d'un tremplin pour aller faire des trucs.
Ah oui, je pense
ça, c'était rigolo. Mais je trouve qu'en dehors de ça, c'est quand même pas grande personnalité et c'est pas super intéressant, quoi.
Non, c'est pas les meilleurs. Mais bon, le Mario Kart Wii, c'est sympa, mais qui aura le même problème, je pense, que sur DS en ligne, c'est que la triche arrivera assez facilement quand la console a été craquée, quoi.
Ouais, malheureusement, ça a été... sur DS, ça a quand même été ça a tué le jeu en ligne au bout de un mois et demi.
Sur DS, t'as eu le snaking en plus qui a. En gros, si tu savais pas maîtriser le jeu, les mecs, enfin, tu pouvais pas gagner parce que les mecs allaient plus vite que les carapaces rouges.
Voilà.
Normal.
Mais c'est vrai que sur Mario Kart Wii, il y a pas eu. Si, il y a eu beaucoup de triche à un moment quand la console commençait à effectivement bien se faire poutrer. ce qui était un petit peu pénible.
Ça devenait facile de se mettre des étoiles illimitées, par exemple.
Complètement.
Mais ça reste, moi c'est aussi un épisode que j'aime beaucoup, parce que dans la sélection des personnages, c'est un des premiers, il y en a vraiment beaucoup. Tu retrouvais Funky Kong et Diddy Kong.
Je savais même pas que c'était Funky Kong avant.
Et bah moi j'étais super content de les voir, parce que je trouve que c'est des personnages qui se marient vraiment bien à l'esprit du jeu, et c'est toujours plus intéressant que des Peach d'or doré ou des Mario Metal, quoi.
Ou que l'ensemble des... comment ça s'appelle, les 8 dans Mario Kart 8
les bébés.
Non, parce ouais, que moi, les Koopa... Bowser, là.
Non, mais les bébés Bowser,
les Koopaling,
moi, les Koopa Ling, je les aime bien. Par contre, les bébés Mario, bébés Peach, bébés Daisy, putain, j'en
mais
pouvais
si,
plus.
Mais si, bébé Mario, mais putain, t'y connais rien, là, encore.
Ils
sont tellement
race.
Mieux.
Ah, mais en même temps, pour un post-90, les Koopa Ling, j'imagine que ça n'a pas vraiment existé.
Mais si, ça existe, parce que je les ai vus dans Nuit Mario Bros, mais bon.
Moi, j'aime bien jouer avec Roy et ses lunettes.
Je dois reconnaître. On va enchaîner sur le dernier jeu de notre petite rétrospective, qui est Mario Kart 7.
Épisode 3DS, je crois que c'est une des meilleures ventes de la console, lui aussi.
Et...
Comme souvent avec Mario Kart,
bah parce que c'est quand même des jeux très populaires, parce que c'est des jeux fun. Hein, même les épisodes qui sont un peu en dessous, ça reste quand même très largement au-dessus de la mêlée. Il y a quelqu'un qui a dit récemment sur le forum que finalement Crash Nitro Racer. Crash Nitro Kart,
ouais.
Crash
Team Racing, pardon, était peut-être meilleur que Mario Kart. Il a pris 3 jours de ban, hein, je veux dire, à un moment, faut quand même
ouais,
essayer
non, mais de se respecter. Il y a des limites, on peut pas se dire ce genre de choses comme ça, même avec des preuves.
Mais apparemment, non, mais il y a des gens qui pensent vraiment que effectivement Crash Team Racing se défend tout à fait et que ça fait partie des jeux qui pouvaient atteindre le potentiel de fun d'un Mario Kart.
Il y a des gens qui pensaient que Crash Bandicoot était aussi intéressant qu'un Mario.
Oui, voilà, mais bon, après, il y a des cons partout. Mais voilà, je veux dire, il n'y a aucun jeu, il a pas si souvent que ça été imité, finalement. C'est les quelques imitations qui ont réussi à atteindre un niveau à peu près correct. On va pas parler de Little Big Planet Racing. Hein,
Sonic All-Star Racing, machin truc sur Wii U.
C'est pas si mal que ça.
Il paraît qu'il est bien, lui. Mais d'ailleurs,
c'est sur PC, c'est chiant.
On y a joué avec quand Pab était là, on y a joué un petit peu. C'est pas un mauvais. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un bon clone de Mario Kart. Mais je veux dire, une fois que Mario Kart 8 est sorti, il lui met une telle race derrière que.
Mais bon, c'est un jeu de course avec Sonic où Sonic est dans une bagnole. Moi, déjà, j'ai un problème avec ça, quoi.
Mais enfin, c'est mieux que quand Sonic est à pied. Hein. Je te rappelle que Sonic
Super
R...
Sonic Racing. Nanana.
Putain, mais pardon, merde. Un jour, je vais organiser un Twitch chez moi et vous allez venir et vous allez jouer à Sonic R. Et franchement, le premier qui arrive à finir une course, je lui suce la bite. Sans déconner, je le fais.
Ok.
Sérieusement, c'est.
Bon, bah, on se donne rendez-vous en deux semaines.
C'est impossible de finir ce putain de jeu. C'est impossible d'arriver à finir un tournoi. Le jeu est injouable. Il va s'entraîner, Zeri. Il est chaud. Bref, pour revenir à Mario Kart, Mario Kart 7, donc effectivement, meilleure vente de la console. La nouveauté de cet épisode, c'est que bah, tout d'un coup, il y a un parachute et il y a une hélice sur le kart, donc on peut aller sous l'eau et on peut flotter dans l'air.
Ce qui n'apporte absolument rien dans le cas d'aller sous l'eau en...
Allez sous l'eau.
Oh putain.
Allez sous l'eau.
Oh, il veut sous l'eau.
Oh là 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 là. Ça devient compliqué, il est 10h10.
Alors on a déjà dépassé.
En vrai, c'est un peu glissant sous l'eau. Enfin, j'ai l'impression que le kart.
Oui, généralement, ça glisse mieux quand c'est humide.
Voilà, ça c'est fait.
Sortez-le.
Non, mais c'est bon, on est dans la plage interdite aux moins de 16 ans, on peut se permettre.
Exactement. Bah, franchement, c'est un jeu mignon, mais qui apportait pas grand-chose. Le plus gros ajout, je trouve que c'est le retour des pièces, qui t'obligeait à prendre des trajectoires pour les récupérer et avoir un petit boost quand t'en avais 10. Du coup, il y avait une certaine gestion aussi de ça dans les courses qui étaient plus intéressantes.
Ouais, mais en même temps, je trouve effectivement c'est vrai, ça rendait le truc un petit peu plus intéressant. Mais en même temps, Mario Kart 7, j'ai toujours eu l'impression que c'était le jeu qui avait été... parce qu'on sait que Retro Studio est intervenu pour finir le jeu, en fait, en gros. C'est-à-dire que Nintendo s'en sortait pas et c'est Retro qui a filé un coup de main pour finir le jeu. Mais j'ai vraiment l'impression que le truc a été rushé pour sortir parce que la 3DS était un peu sous l'eau et qu'il fallait un Mario Kart parce que ça fait partie des trucs qui vendent des consoles, quoi. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il est beaucoup moins... Les finitions sont bien moins bonnes que sur Mario Kart DS, ce qui est quand même très dommage. Il y a beaucoup moins de contenu solo. Le contenu multi est sympa. Il y a des courses qui sont très très bien. Je veux dire, Neo Bowser City est vraiment une course super bien. Le parc musical, c'est super sympa. Mais j'y ai vraiment pas passé autant de temps que sur l'épisode DS et j'y ai pas retrouvé autant de plaisir.
Moi, j'y ai passé, je pense, plus de temps parce que c'est... À l'époque, sur Nintendo Man, Ils avaient essayé de relancer tout ce qui était tournoi et communauté en ligne. Et on a fait beaucoup, beaucoup de tournois le dimanche soir. Et c'était très, très fun, en fait, de jouer avec, en étant sur un... Bah, ça devait être un Mumble aussi. À discuter avec les autres en même temps. Et j'ai des bons souvenirs de ce jeu grâce à ça. Mais c'est vrai que le jeu en lui-même, à partir du moment où Mario Kart 8 est sorti, je pense que je l'ai oublié, quoi.
Bah, c'est un peu ça, en fait. Il s'est fait tellement éclipser par Mario Kart 8 que...
Bah, disons que Mario Kart 8, c'est la version finie de Mario Kart 3, 7, en fait, pour moi.
C'est vrai que c'est un peu l'impression que ça donne.
C'est-à-dire que là, ils ont vraiment réussi à aller beaucoup plus loin avec l'épisode suivant, et du coup, le 7 fait un peu bof-bof, quoi.
Et c'est un peu dommage. Et c'est vrai que maintenant que Mario Kart 8 Deluxe sera un épisode portable dans 2 jours... ça va devenir le meilleur épisode sur console de salon et le meilleur épisode sur console portable de Mario Kart.
Ouais. Et je crois que je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Donc,
il voulait me.
Ça
voulait
pas être intéressant.
Ça veut pas être intéressant sûrement.
Bref, je pense que nous allons nous quitter parce qu'il commence à se faire tard. Je suis très content d'avoir fait cette petite rétrospective. C'était vachement bien, je trouve, d'avoir pu rebalayer un petit peu toute la série. On parlera peut-être de Mario Kart 8 Deluxe, mais probablement pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est une autre émission rétro. En attendant, on va se quitter...
Tellement rétro qu'il aura un format cubique.
Ça
manquera de lissage au niveau des polygones, et du coup, ce sera très rêche. Mais ce n'est pas de la 64.
Voilà, mais il y aura un meilleur anti-aliasing, quand même. Et du 480p.
Ce sera plus joli.
Ce sera l'émission en 480p. L'émission Progressive Scan. D'ailleurs,
sur mini DVD.
Je vais vous demander pour la semaine prochaine, donc si vous ne l'avez pas déjà deviné, on va faire une émission spéciale GameCube, puisque ce sera pile poil, c'est ce que Zergy nous a rappelé la semaine dernière, ce sera pile poil l'anniversaire de la sortie de
du GameCube,
du cube de jeu en Europe, parce que nous avons été malchanceux, voilà, mais ce sera les 15 ans de la GameCube. Donc on va parler de GameCube. Et je vais vous demander pour la semaine prochaine de faire une petite sélection de 3 jeux chacun qui vous ont marqué énormément sur GameCube et de me les envoyer individuellement. Comme ça, je pourrais faire un petit ballot. Alors le problème, c'est que j'ai peur de retrouver 3 Metroid Prime, donc c'est pour ça que je vous demande de me les envoyer avant pour que je puisse vous dire éventuellement ce qu'il y a à changer.
Et nous, on peut le faire.
Et vous pouvez le faire quoi?
Bah, envoyer les jeux.
Ah, si tu veux, oui.
C'est
oui,
le bah, t'inquiète.
C'est bon, le but, c'est que
du coup, je tout, tout de suite, j'aurai le premier Metroid Prime.
Moi, je vais t'envoyer mon RIB si tu veux.
Tu peux m'envoyer tes coordonnées téléphoniques si tu es blonde à forte poitrine.
Ah, maman
Dropcard aura plus que 50% du truc.
Mais voilà, envoyez-moi les jeux que, dont vous voulez parler. Je pense que j'enverrai le mail à tout le monde. Je suis certain qu'on va pouvoir arriver à re-ramasser un petit Frosty's Advance qui pourrait peut-être revenir parce que je pense que ça va l'intéresser comme émission. En attendant, nous allons nous quitter avec la citation du jour hein, qui nous vient de Cyrard, hein, une fois n'est pas coutume, qui un jour on parlait d'ouvrir notre propre business. Il me dit bah, si un jour j'ouvre une boulangerie, je l'appellerai V pour vendre des tartes.
Oh, putain. Le level.
Voilà, c'est con mais ça me fait rire. Voilà. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ciao tout le monde.
Et à la
bisous
semaine prochaine.
Partout, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Salut.
Bye.